France Musique. Musicopolis. Jean Gilles, Toulouse, 1705. En arrivant à Toulouse, à la tête de la chapelle de la cathédrale Saint-Étienne, Jean Gilles retrouve en 1697 une organisation qu'il connaît bien et qui est aussi ancienne que les maîtrises. C'est-à-dire qu'elle date de la fin du Moyen-Âge, puisqu'on fait remonter la création des premières maîtrises françaises à 1119 pour celle de Chartres et 1127 pour celle de Paris. Gilles lui-même a fréquenté celle de Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence en tant qu'enfant de chœur, puis de sous-maître et maître. Ensuite, il a passé 2 ans à la tête de celle d'Agde avant de prendre celle de Toulouse. Les maîtrises, ou psalettes, comme on les appelle sous l'Ancien Régime, sont le vecteur du chant et de la musique à l'église durant les offices, et de fait, elles sont l'unique endroit où un enfant peut recevoir une instruction musicale gratuite, ce qui met la musique à la portée des couches de la société, même les plus pauvres. Lorsque je dis « un enfant », je devrais dire bien sûr « un enfant mâle », puisque de fait, les filles sont exclues de ce système, tout comme elles sont exclues de toute charge ecclésiastique, en dehors des couvents qui leur sont réservés. Et entre parenthèses, puisque les voix féminines sont de nos jours autorisées, et qu'on aurait d'ailleurs beaucoup de mal à s'en passer, les enregistrements que je vous présente, même s'ils sont historiquement informés, ne reflètent pas exactement le son d'un chœur de l'époque. Les jeunes garçons entrent à la psalette généralement entre 6 et 10 ans, et ils y restent jusqu'à l'âge de la mue, qui intervient, semble-t-il, plus tard à cette époque qu'à la nôtre. Certains entrent encore plus tôt, d'autres un peu plus tard. Jean-Gilles, par exemple, avait 11 ans en 1679, lorsqu'il a été reçu à Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Et Campras avait, lui, 14 ans en entrant dans la même maîtrise quelques années plus tôt. Ils se sont bien connus, puisque Campras est resté encore 2 ans après l'arrivée de Gilles. Les jeunes choristes sont souvent de conditions modestes. Les parents de Campras faisaient partie de la petite bourgeoisie, mais pour ceux de Gilles, des habitants de Tarascon, ils étaient certainement assez pauvres. Dans son acte de naissance, son père est qualifié de « travailleur » qui a dit « ne savoir écrire ». Le premier biographe de Gilles affirme d'ailleurs que ses parents étaient plus distingués par leur probité que par leur richesse. Le Concile de Bourges a fixé en 1584 le cadre du recrutement des enfants de maîtrise. Je cite « On choisit d'abord les enfants aptes, d'âge requis, issus de mariages légitimes, ne présentant aucune infirmité, en bonne santé et possédant une voix pure. » Fin de citation. Un petit examen musical vise à prouver que l'enfant a de bonnes dispositions. Et s'il ne fait pas l'affaire, au bout de 2 ans, il sera congédié. Être reçu dans une maîtrise est pour un jeune garçon une chance au XVIIe siècle. Il va recevoir une éducation très complète, musicale et générale. C'est une chance aussi pour sa famille qui va avoir une bouche de moins à nourrir. Beaucoup de recrues viennent de familles nombreuses et souvent monoparentales. Et en effet, une fois entré à la maîtrise, l'enfant est totalement pris en charge, logé, nourri, blanchi. En contrepartie, il va devoir se conformer à un emploi du temps que nous jugerions aujourd'hui sans doute incompatible avec les droits de l'enfant et aussi avec le code du travail. La journée commence à 5h15. les matins, 7 jours sur 7, les enfants du chœur se lèvent à 5h15. Seulement deux d'entre eux doivent assurer le service des matines en semaine, mais ils y seront tous présents bien sûr pour les fêtes solennelles. Ils vont ensuite suivre tous les offices de la journée et ils sont nombreux. Ils doivent aussi évidemment chanter aux enterrements, aux mariages, aux processions et à toutes les autres célébrations religieuses extraordinaires. Entre les offices, ils auront leurs leçons. Le matin, c'est le sous-maître de musique qui leur apprend ce qu'ils ont à chanter à la messe. Après une petite récréation qui suit le repas de midi, ils ont leurs leçons de latin et de français avec le maître de grammaire. Sauf le jeudi, le dimanche et les jours de fête. Ils ont aussi leurs leçons de catéchisme et ils doivent apprendre par cœur les épîtres et les évangiles des jours importants. Ils ont droit à une deuxième heure de récréation le soir après le souper. Les enfants de chœur sont plutôt bien traités pour les canons de l'époque, puisqu'il y va de la réputation de la musique de l'église et de celle du chapitre. Celui de Saint-Cernin de Toulouse, par exemple, ordonne par une délibération de 1700 de faire crépir les murs de la chambre des enfants, là où on veut poser de nouvelles couchettes, à cause des punaises. On prie aussi le maître de musique de veiller à leur donner mieux à manger. À Saint-Étienne, apparemment leur santé est bien surveillée, puisqu'un chirurgien, c'est-à-dire un barbier qui pratique essentiellement la saignée, les suit constamment. Christus, 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 Dans son opuscule « L'entretien des musiciens » de 1643, Annibal Gantès, compositeur et maître de chœur, évoque la manière dont il faut se comporter avec les petits choristes. « La science, en toute chose, c'est d'avoir de l'entre-gens et des paroles de soi. Car la plus belle guerre du monde, c'est celle de la douceur, et particulièrement envers les pauvres enfants de chœur que bien souvent les maîtres tourmentent comme des pauvres ixions, ne faisant point de différence d'un valet à un disciple, voulant lui faire entrer par les fesses ce qu'il ne saurait y remonter par la cervelle. Ayant vu de mon temps un maître qui, ne pouvant faire comprendre une note à l'enfant, l'arracha avec tout le papier pour la lui faire avaler, en lui disant que puisqu'il ne la pouvait concevoir par raison, il lui fourrerait par force dans la tête. Eh bien, ne sont-ce pas là des cruautés indignes de gens de notre condition, qui ne doivent être que miséricordieux et débonnaires ? Le portrait qui nous est fait de Jean-Gilles par son biographe, l'abbé Bougerel, nous permet de penser qu'il traitait bien ses enfants de cœur. « Jamais homme, nous dit l'abbé, ne fut plus simple que lui dans le commerce de la vie. Il était d'un tempérament triste et mélancolique. Il était si charitable qu'il se privait du nécessaire pour faire des pensions à plusieurs personnes qui étaient dans le besoin. » Jean-Gilles a eu lui-même pour exemple à Aix-en-Provence un maître débonnaire, Guillaume Poitevin, qui a passé 35 ans au service de sa psalette avant de mourir, nous dit-on, en odeur de sainteté. Pour tout ce qu'il enseigne aux enfants, la qualité du maître de chœur est bien sûr très importante. On remarque que ledit Poitevin a réussi à former parmi ses ouailles plusieurs musiciens qui ont fait carrière, dont Campra et Gilles, plus d'autres comme Cabassol ou Pellegrin, dont les noms nous sont aujourd'hui moins familiers. Interdiction est faite, bien sûr, aux membres de la maîtrise de sortir, que ce soit les enfants de chœur ou même les garçons un peu plus âgés qui ont mué et ont été engagés comme cantoraux. Si aucune réprimande ne paraît avoir été faite à Jean-Gilles, dont la santé était fragile pendant qu'il était à Saint-Sauveur, à Aix-en-Provence, on trouve en revanche mention du cas de Campra. En 1681, Il a 21 ans et il est sorti de la maîtrise vraisemblablement pour assister ou participer à des séances d'opéra. C'est l'époque où l'opéra se répand en France et notamment dans le Sud. Campra est réprimandé et il doit faire amende honorable pour ne pas être congédié. Une délibération du chapitre déclare alors à ce propos « Défenses sont faites à lui et à tous les autres serviteurs du chapitre de faire ni d'assister aux opéras qui se font dans la ville, soit pour y jouer des instruments ou pour y chanter, sous peine de congé. » Si les maîtrisiens ne sont pas autorisés à sortir pour aller à l'opéra, ni pour toute occasion de musique profane, même pas pour donner des leçons ou jouer chez des particuliers, en revanche, ils sont requis pour chanter lors de grandes occasions. Par exemple, si le roi passe par la ville, ce qui arrive à Aix, nous dit une chronique de l'époque. Après que le Te Deum fut chanté en musique sur les orgues, après que la fanfare des trompettes, le son des tambours et le bruit des mousquetaires du roi rangés dans la place Saint-Sauveur se furent mêlés à l'harmonie des instruments de musique et à la voix des prêtres, tout ce que nous eûmes de canon fit feu. À l'occasion de la guérison de Louis XIV en 1687, on célèbre une messe d'action de grâce à Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Jean-Gilles est encore à la maîtrise, il a 19 ans, il est certain qu'il profite pleinement de l'occasion. Un gentilhomme de Marseille fait une relation dans la cérémonie et il affirme que la musique de cette église soutint très bien sa réputation d'être une des meilleures du royaume. La messe du Saint-Esprit, poursuit-il, fut chantée par la musique avec une très grande solennité. Et les excellentes voix qu'on avait choisies secondèrent si bien par leurs admirables accords, l'art et la beauté de la composition des motets qu'un très habile maître avait fait sur le sujet de la joie et de la reconnaissance publique, qu'elles augmentaient toujours par de nouveaux charmes l'admiration des assistants. Le Te Deum fut continué par les deux corps de musique, parmi les bruits agréables des violons, des trompettes et des hautbois qui se succédaient mutuellement, ce qui faisait tout ensemble une mélodie surprenante. Te Deum de Jean-Baptiste Lully par le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Tout le programme de cette émission, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe du jour était composée de Delphine Baudet, Adèle Moll, Philippe Demenou et Béatrice Trichet.
À réécouter sur francemusique.fr.